Donc, bonsoir, messieurs, dames. Merci, Guillemette, pour ta présentation. Merci, Jean-Louis, pour l'invitation. Merci aussi pour avoir organisé le colloque. Ça a été un plaisir d'assister à la journée. C'est un plaisir d'être ici, bien sûr, au Collège de France, invité par toi, Jean-Louis, et aussi au milieu de plusieurs savants qui se sont occupés de l'œuvre de Le Corbusier. Donc, je suis ravie vraiment d'être ici. Comme disait Guillemette, et comme vous voyez aussi du titre de mon intervention, je vais me concentrer sur les concepts d'automatisme. Et parler du concept d'automatisme, ça signifie aussi se concentrer sur l'œuvre de Le Corbusier de l'après-guerre. Donc, se concentrer sur une période dans laquelle s'ouvre un chapitre de la production artistique de Le Corbusier qui doit être encore analysé. Il y a encore plusieurs recherches qu'on peut faire sur Le Corbusier de l'après-guerre. Et l'œuvre de Le Corbusier de l'après-guerre est un chapitre dans lequel on trouve des questions, des principes suivis par Le Corbusier qui vont au-delà de ce qu'il avait fait, par exemple, dans la période du purisme. Il n'y a plus, par exemple, les cinq points de nouvelle architecture, au moins. Il y a les cinq points de nouvelle architecture, mais la rhétorique de Le Corbusier n'est plus la rhétorique très programmatique qu'on voyait à l'époque du purisme. Et en plus, Le Corbusier il commence à développer des concepts qui vont au-delà de ce qu'il avait fait auparavant, des concepts comme les concepts d'indicible, de texturique, de transfert. Et c'est dans ce cadre que Le Corbusier explore ce qu'il y a au-delà des certitudes des 100 points formulées à l'époque de la civilisation machiniste, et il développe aussi une stratégie créative liée au concept d'automatisme. Donc le concept d'automatisme commence à jouer un rôle qui est un rôle déterminant. Et c'est précisément ce nouvel automatisme associé à l'indicible qui pousse Le Corbusier de plus en plus à se confronter avec le surréalisme. Et c'est dans ce contexte, comme nous le verrons, que même la technique et aussi les matériaux commencent à être conditionnés par cette nouvelle pulsion créative de Le Corbusier. Et donc, par exemple, ce qui était l'ossature domino, l'ossature en béton armé développée par Le Corbusier dans les années 10, devient par exemple la poétique du béton brut. Donc, avant de se plonger dans la question de l'automatisme, il faut aussi prémettre que l'œil de Le Corbusier a toujours observé l'ordre des choses, même les moins compréhensibles à première vue, comme la disposition des vaisselles sur une table alla fin d'un repas. Et les photographies du jardin sur les toits de son appartement de la rue Nungesse-Récolli, publiées dans l'œuvre complète et dans les livres New World of Space, photographies dans lesquelles on voit les processus de création automatique généré pendant les années de la guerre, lorsque Le Corbusier avait quitté Paris et que la végétation avait poussé spontanément, illustre ce type de regard de Le Corbusier. Comme a dû noter le créateur de l'unité d'habitation de Marseille, première et désastreuse expérience de Le Corbusier avec les bétons bruts, l'imprévu è un paramètre incontournable dalle processus creatifs. L'unité d'habitation de Marseille est le chantier où l'assemblage parfait des planches de coffrage visant au départ à obtenir un béton lisse comme la surface polie du revêtement d'enduit permet à Le Corbusier de découvrir la beauté inattendue de toutes les imperfections irrémédiables, les imperfections générées par les coffrages eux-mêmes et par les coulages. Imperfection produite dans un contexte historique marqué par l'économie des moyens imposée par la reconstruction. Dans l'unité d'habitation, Le Corbusier cherche un béton à ne pas travailler après le décoffrage, comme s'il s'agissait d'une œuvre générée par la construction pure. Et c'est dans les chantiers de l'unité d'habitation qu'il découvre l'expressivité du processus de fabrication du béton dans les concepts artistiques de l'empreinte. Empreinte qu'il contrôle grâce au dessin des planches en bois qui composent les coffrages. Mais les surfaces de l'unité d'habitation, comme vous voyez aussi dans les images, ne sont pas seulement tissées par ces genres d'empreintes, donc les empreintes contrôlées, mais elles sont aussi défigurées par une constellation de malfaçons évidents, féroces, atroces, que Le Corbusier ne sait pas corriger. Aux yeux de Le Corbusier, le béton de Marseille est donc un échec constructif. Un échec que seule son intelligence artistique et ses talents de propagandiste peuvent racheter et même transformer dans une œuvre d'art. Le Corbusier décide tout d'abord d'intervenir avec la couleur, les couleurs qui sont introduites sur les loggias, et ça, les couleurs sont introduites pour distraire l'œil de la perception des défauts, et les couleurs sont aussi introduites pour créer des contrastes chromatiques. Ensuite, Le Corbusier exalte les malfaçons comme l'expression fondamentale d'une nouvelle esthétique du béton apparent. Comme on peut les voir si on lit ses écrits, les malfaçons finissent pour devenir une caractéristique formelle imprévue, produite automatiquement pendant les chantiers, qui pourrait être comparée avec certains effets du dripping de Jackson Pollock. Il n'est pas exclu che dalle imperfezioni di son béton, les accidents, come les appelle Le Corbusier, lui-même il voit les reflets d'un infinito de Michel-Ange, o sinon encore les modellages irréguliers des sculptures de Rodin. Il redécouvre la sculpture de Rodin après la Deuxième Guerre mondiale, ou encore les reflets de son corps vieillissant, de sa peau vieillie. C'est précisément dans le contexte des désespoirs initiaux et des exaltations subséquentes des malfaçons que Le Corbusier charge d'un sens particulier l'adjectif brut dont il qualifie les bétons de son unité d'habitation. Lorsque, pour les chantiers de Marseille, Le Corbusier a inventé la définition de béton brut, il n'avait pas l'intention de se référer uniquement à l'opération technique de décoffrer les bétons sans les travailler davantage. Mais il a habilement exploité la définition des bruts qui se propage en même temps dans les milieux artistiques d'avant-garde à Paris. Brut, dans un sens similaire à celui utilisé par Le Corbusier pour les bétons, apparaît dans un essai de Dubuffet de 1945, avec d'autres adjectifs qui qualifient un traitement d'un matériau malfaçonné, imparfait, embryonnaire, et toutes les surfaces des tableaux de Dubuffet du milieu des années 40 donnent en fait l'impression d'une négligence. Les toiles sont traitées comme s'il s'agissait des murs, et parfois, sur les toiles, sont étalés des matériaux de construction. Et ces matériaux sont écorcés pour obtenir des effets des surfaces rugueuses et pour obtenir des malfaçons. Des malfaçons qui génèrent des figures fantastiques ou horribles, les mêmes figures que également Le Corbusier avait regardées et desquelles Le Corbusier avait été fasciné justement à partir des années 40. Les malfaçons de l'unité d'habitation de Marseille reprend des valeurs artistiques similaires à ceux développés par Dubuffet et deviennent l'expression spontanée d'une phénoménologie nouvelle et actuelle de la matière. Il est significatif aussi pour comprendre les relations entre les bétons bruts et l'art brut qu'en 1949, après la grande exposition de 1948 organisée auprès de la galerie René Drouin, en 1949, dans l'architecture d'aujourd'hui, à l'intérieur d'un article dédié à l'art brut, sont publiées des photographies de Charlotte Perriand qui montrent des matériaux bruts, donc des matériaux brutales. Et à la fin de l'article, sont introduites aussi des photographies dell'unité d'habitation ancora en chantier. Donc il y a aussi, dalla critique, un lien direct qui est retrouvé. Le Corbusier expose les fondements de l'esthétique du béton brut au début des années 50, dans le cinquième volume de l'œuvre complète. Et c'est dans ce volume que Le Corbusier écrit des splendeurs du béton brut. Il parle des béton brut avec malfaçon. Il parle du béton brut comme une pierre reconstituée digne d'être montrée dans son état brut. Et à l'intérieur d'un article dédié à l'unité d'habitation, il publie aussi des photographies, des détails des béton, qui est un béton mal travaillé, comme vous voyez aussi dans l'image. Et donc, les volumes de l'œuvre complète de 1953 est nécessaire aussi pour repeindre au niveau international un concept de brut lié à cette sensibilité pour l'informe qui, dalle même année, est en train de se repeindre dans les contextes artistiques. Il est naturel donc que Le Corbusier, après la découverte du potentiel artistique des imprévisibles malfaçons de Marseille, et après avoir écrit l'apologie de la beauté générée par cette imperfection inattendue, s'intéresse de plus en plus au processus artistique qui, des Bretons à Zara, ont été inclus dans les phénomènes de l'automatisme. Au milieu des années 50, Le Corbusier commence à réaliser des figures qu'il appelle taureaux. Ces figures sont générées par des processus inconscients et pourraient donc faire l'objet d'un paragraphe de Dalí sur la méthode paranoïaque critique. D'ailleurs, les Minotaures, les monstres moitié taureaux et moitié hommes de la mythologie grecque avec lesquels les taureaux de Le Corbusier est lié, est devenu le titre, comme on le sait, de la revue surréaliste fondée en 1933. Et c'est dans ces revues qu'était apparue la photographie d'un locomotif abandonné sur laquelle poussait une végétation spontanée comme dans les jardins sous les toits de la rue Nungesser-Écoli. Les taureaux sont une agrégation d'objets naturels qui forment des corps féminins et d'animaux. La série est née avec un tableau de 1952, le tableau que vous voyez dans la diapositive. Le tableau a été exécuté en Égypte. Et l'idée est probablement venue à Le Corbusier de la vision d'une sculpture égyptienne dont la tête était surmontée de deux bras. Cette sculpture a été dessinée par Le Corbusier lors de son séjour en Égypte, et dalla page du carnet qui précède celle consacrée aux études sur les taureaux. En regardant ces peintures, nous pouvons voir comme maintenant la combinaison des profils théorisés par Le Corbusier dans la période de la peinture puriste s'est transformée dans un montage généré par les subconscients, montage aussi indicible que l'idée d'espace que Le Corbusier développe à partir du 1945. Après avoir réalisé les taureaux en peinture, Le Corbusier découvre la figure du taureau dans ses architectures. Il est significatif à cet égard que, parmi les notes du livre consacré à la sculpture, un livre qui aurait dû être composé de photographies des sculptures, d'aquerelles et d'une section dédiée à l'espace sculptural, à côté du dessin du pilon du palais de l'Assemblée des Champs de Gare, on trouve la notation une manifestation incontrôlée du taureau dans l'architecture elle-même. Dans le deuxième volume du Modulor, Le Corbusier théorise un processus de création automatique qui prévoit l'utilisation des zippatons, les trames préimprimées sur un support adhésif plus ou moins transparent, qu'il avait utilisé avec Vasarely per la création des cartons de tapisserie et que normalement il utilisait aussi dans son agence, dans le sens que les zippatons sont aussi des morceaux, des textures, des trames qui sont utilisées dans les dessins d'architecture. À la manière du manifeste du surréalisme, Le Corbusier explique comment obtenir avec les trames des zippatons un jeu qu'il définit inattendu. On prend les premiers fragments des zippatons qui nous tombent sous les mains, explique Le Corbusier. On l'appuie sur un autre, puis on tourne imperceptiblement jusqu'à voir naître une multitude de dessins. Son jeu avec les zippatons produit donc des textures graphiques, dans lesquelles la grammaire de la répétition contrôlée régulière du motif décoratif étudié par Le Corbusier pendant ses années de formation est définitivement annulée. Cette recherche sur les effets optiques des diptatones à découvrir par les mouvements s'inscrit dans la tradition de la vision in motion de Molinag, poursuivie par Georgi Kepes. Et après tout, Kepes avait travaillé dans l'atelier de Le Corbusier en 1931, donc il avait aussi un lien direct. Et cette recherche confirme aussi l'importance cruciale des relations de Le Corbusier avec Vasarely, avec ses expériences sur les compositions illusionnistes et sur la pop art. Il est intéressant à cet égard de rappeler que du 6 au 30 avril 1955, à la Galerie Denis René, Vasarely avait organisé l'exposition Les Mouvements, où sont exposées ses œuvres et celles d'artistes tels qu'elles Hagan, Bury, Calder, Duchamp, Soto, Tinguely. Donc les œuvres exposées étaient basées sur les mouvements et certaines fois étaient basées aussi sur la superposition de plusieurs plans en bois, en plexiglas ou en métal, chacun décoré avec différentes textures graphiques pour obtenir des effets optiques cinétiques. Le Corbusier fréquente la galerie Denis René. Il avait participé avec certaines de ses œuvres à l'exposition Tapisserie du Buisson en 1952 et en 1953, la galerie avait organisé une exposition des tapisseries de Le Corbusier. Donc, ce que Le Corbusier écrit dans le deuxième volume du Modulor sur les trames zipatones révèle une connaissance directe de ces expériences d'illusionnisme cinétique présentées à l'exposition de 1955. À la lumière des études sur la graphique automatique de Le Corbusier, même certaines installations du coffrage pour les bétons pourraient s'inscrire dans des recherches des artistes du cercle de Denis René. Et un cas significatif est la disposition aléatoire des planches en bois de la Villa Chaudan. Les mêmes expressions utilisées par Le Corbusier pour les coffrages. Le Corbusier parle des coffrages en bois tout venant, donc disposés sans aucun dessin, presque un dessin automatique qui est mis en œuvre à travers les montages des coffrages. Et même cette expression nous fait comprendre comme la question de la réalisation d'une trame graphique à travers les mouvements automatiques d'une trame, comme la trame de Zipatom, peuvent avoir conditionné aussi la disposition des planches et donc les résultats des empreintes sur les surfaces en béton brut. Mais les affinités les plus surprenantes entre les bâtiments de Le Corbusier et les phénomènes d'illusionnisme cinétique se trouvent dans les lignes des loggias et dans celles du quatrième mur, c'est-à-dire la paroi des bois et des verres des unités d'habitation. Comme certains tableaux de Vasarely ou de Soto sont formés par la superposition des plans en plexiglas avec textures diversifiées, de même, la façade des bâtiments de Le Corbusier est composée par des plans superposés avec motifs graphiques plus ou moins transparents. Et ces motifs graphiques peuvent s'inscrire dans les concepts plus généraux des texturiques dont Le Corbusier écrit toujours à l'intérieur du deuxième volume du Modulor. Le Corbusier utilise les zipatones aussi dans certaines compositions typographiques, et c'est par exemple une composition de ce genre qui introduit dans les livres du 1957 les projets de la chapelle de Ronchamp. Probablement Le Corbusier choisit cette composition aussi parce que pendant les phases de construction du mur à sud, l'utilisation du canon à ciment avait nécessité le montage d'une nappe en métal déployé qui avait créé un effet graphique similaire à ceux des trames zipatones. Les cadrages de la photographie de la nappe prise par Hervé sur les chantiers est emblématique à cet égard. La photographie capture les potentiels degrés graphiques de cette nappe, en confirmant aussi comme les chantiers est pour Le Corbusier un lieu de découverte, un lieu de création artistique. Une composition de profils découpés, on la trouve aussi dans les dessins du plan du pavillon du Brésil. En ce cas, si on regarde les plans, on a comme l'impression d'être en face à une composition qui a été réalisée avec des zipatons coupés. Et sauf que dans le cas du pavillon du Brésil, les différents morceaux des zipatons, c'est comme ça on peut les définir, sont aussi coupés à partir des courbes du paysage côtier brésilien. Les mêmes paysages que Le Corbusier avait dessinés en 1929 et ensuite qu'il avait encore redessinés et repris en 1942. Donc, les pavillons du Brésil deviennent aussi une machine qui évoque les lieux d'origine des étudiants et deviennent aussi un exemple d'application d'un autre concept qui caractérise les processus créatifs de Le Corbusier des années 50 et 60, qui est le concept de transfert. Lorsque Le Corbusier monte sur une toile des morceaux de papier coloriés de différentes formes, il réalise ce qu'il appelle le dessin automatique. Et la série Simla appartient à ce genre de dessin. Dans la série, la toile est divisée en bandes coupées, chacun est occupé dans une figure, dans des figures différentes et parfois aussi par des lignes imprévisibles. Et lorsque Le Corbusier décrit ces dessins automatiques, il fait allusion à une composition de morceaux d'images, d'images qui sont associées selon un ordre psychologique et indéterminé. Donc, son assemblage de figures et de lignes suit les mécanismes du cadavre esquis qui les surréalistes avaient utilisé pour décrire ses propres concepts d'automatisme. Et c'est dans le contexte de cette recherche che Le Corbusier fait aussi avec les dessins automatiques, qui publie aussi l'un des livres qu'on peut considérer comme les plus significatifs des processus créatifs qu'il développe après la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire les poèmes de l'angle droit. L'effet che Le Corbusier utilise la définition des dessins automatiques aussi en relation au surréalisme est significatif si l'on considère qu'en 1954, son travail avait été associé au surréalisme dans les catalogues de l'esposition organisée à la Kunsthal de Berne. La question du surréalisme amène Le Corbusier à lire, en 1955, l'essai de Claude Mauriac consacré à Breton. Et les nombreuses annotations visibles dans la copie du livre de Le Corbusier montre son intérêt pour les thèmes abordés par Breton. Et bien sûr, ce sont les processus artistiques typiques du surréalisme qui provoquent ces réactions les plus passionnées. Par exemple, dans les annotations, Le Corbusier montre d'être intéressé aux textes automatiques. Donc, les textes écrits par King Kong qui produit des assemblages de mots qui peuvent aussi et produire des images insolites à travers cette juxtaposition des mots, et juxtaposition qui est faite d'une manière arbitraire. Et c'est précisément à côté de ces considérations que Le Corbusier note le hasard productif de la page 11, album noir de Nivola. Sur cette page, Le Corbusier avait dessiné la tête de la sculpture égyptienne et les croquis du palais de l'Assemblée de Chandigarh qui, comme on a vu, annonce les taureaux. Donc déjà, on a un lien entre les figures produites de la série Taureau et les discours que Breton fait sur les textes automatiques. Et avec la notation sur les livres, Le Corbusier nous fait comprendre comme il se reconnaît dans certains des processus créatifs développés par le surréalisme. Sur la même page, Le Corbusier note aussi quelque chose qui révèle l'essence créative de ses carnets. Et les carnets sont réévalués par Le Corbusier précisément en fonction de l'écriture automatique. Et donc il écrit, j'ai ici l'album Noir Nivola 2, où j'ai rassemblé en mai 53 les thèmes de mon œuvre peint pour les inscrire dans les manuscrits poèmes de l'angle droite. Ces thèmes, cherchés dans mes sketchbooks, albums, tableaux, etc., sont empilés sans ordre ni chronologie, page après page. Mais leur juxtaposition hétéroclite est valable, parfois intense, actif. Donc on comprend aussi, si on lit la notation, comme les poèmes de l'angle droite est l'un des livres plus intéressants pour Le Corbusier à mettre, et que Le Corbusier veut mettre en relation avec les textes automatiques. Avec les textes automatiques. Donc on comprend encore une fois l'importance du processus créatif que Le Corbusier développe dans les textes. Le Corbusier se rapproche dans les deuxièmes après-guerre du surréalisme, mais il y a un aspect du surréalisme par rapport auquel Le Corbusier prend ses distances. Et cet aspect sont les objets surréalistes, les objets qui normalement sont des objets préfabriqués ou trouvés par hasard au marché aux puces, et des objets qui peuvent susciter des processus créatifs. Le Corbusier ne comprend pas pourquoi les objets devraient être trouvés dans les marchés aux puces, donc là où il y a les sueurs d'hommes et de femmes, comme lui-même dit. Et il oppose aux objets surréalistes ces objets à réaction poétique, donc des objets qu'on trouve dans les paysages, qu'on trouve dans la nature, et donc il oppose, il fait une opposition entre les déchets de la métropole, donc les objets qu'on trouve dans les marchés aux puces, et les fragments de la nature. Une opposition qui est significative aussi si l'on considère que sa formation artistique et culturelle a eu lieu dans les paysages suisses. Grâce à cette approche issue du concept d'automatisme surréaliste, Le Corbusier découvre dans ses œuvres des figures à travers des processus créatifs où l'hasard joue un rôle important. Ainsi, les petites bacs à fleurs sous les toits de l'unité d'habitation de Marseille sont appelées dromédaires, et les toits de la chapelle de Ronchamp, qui pour lui, à l'origine, était une surface réglée résistant au vent comme l'aile d'un avion, deviennent seulement en 1956 les carapaces d'un crabe. Encore en 1955, Le Corbusier découvre aussi des photos à l'intérieur des journaux. Et là, vous voyez une photo de l'unité d'habitation de Rézélénante où il y a 5 draps qui sont étalés sur la surface. Et bien sûr, la photo intéresse Le Corbusier parce que les draps changent aussi la perception de la façade. Et Le Corbusier arrive aussi à décrire son même processus créatif comme une initiative spontanée. Et il nous dit « Lorsque une tâche m'est confiée, j'ai pour habitude de la mettre au-dedans de ma mémoire, c'est-à-dire de ne me permettre aucun croquis pendant des mois. La tête humaine est une boîte dans laquelle on peut verser, on vrac les éléments d'un problème. » On laisse alors flotter, mijoter, fermenter. Puis un jour, une initiative spontanée de l'être antérieur, le déclic s'est produit. On prend un crayon de couleur, la couleur est la clé de la démarche, et on accouche sur le papier. L'idée sort, l'enfant sort, il est venu au monde, il est né. Et de la même manière, donc à partir de cette idée d'accumulation créative à l'intérieur d'une pièce, il décrit aussi son atelier, l'atelier qu'il y a à l'intérieur de l'appartement de la rue Nungesser-Écoli, donc son atelier de peintre. Et il parle de son atelier de peintre comme un archipel. Et lui, il est le navigateur qui connaît toutes les règles pour se déplacer à l'intérieur des îles qui composent l'archipel. Et bien sûr, les îles sont tous les accumulations d'objets, d'œuvres, etc., qui, dans les années, se sont accumulées justement à l'intérieur de son atelier. À la lumière de l'automatisme décrit dans les domaines artistiques, aussi l'adjectif brut prend une valeur particulière dans la recherche de son béton apparent, du béton apparent de Le Corbusier. Et après l'invention du béton brut qui au début était synonyme de malfaçon, une interprétation qui, comme on a vu, est née après les chantiers de l'unité d'habitation de Marseille, il devient finalement clair que le béton brut est pour Le Corbusier une forme particulière d'automatisme. Le contrôle de cet automatisme ne doit être exercé que dans la phase d'exécution du coffrage, bien que tous les événements imprévus générés lors de la construction doivent être laissés en place pour témoigner de la genèse automatique des faits artistiques ou des figures imprévisibles. Et cet effet artistique automatique sont particulièrement évidents dans ces photographies du secrétariat des Champs de Gare. Et c'est intéressant aussi la construction, là c'est une photo des chantiers du secrétariat, du toit du secrétariat. Et là vous voyez dans la partie supérieure la manouvre, l'un des signes qui ont été imprimés dans les surfaces en béton du secrétariat, les premiers signes, la première sculpture mulet réalisée à Champs de Gare, donc la manouvre, les symboles de Le Corbusier. Le Corbusier était sur les lieux pendant les coulages de la partie supérieure du secrétariat et il écrit aussi dans ses carnets une sorte d'histoire qui nous raconte la mise en œuvre de la manouvre. Et il nous dit que la manouvre était mal faite, était mal placée et elle était pliée comme les jeunes filles timides plient la tête. Donc, encore une fois, un défaut qui devient, dans les mains de Le Corbusier, une image qui est une image métaphorique. Je m'arrête ici et je vous remercie.